100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, l'an dernier a été une année noire pour l'emploi en Italie, au point que le journal La Stampa a pu écrire « L'Italie ressemble de plus en plus à un pays où toucher un salaire est un privilège, notamment pour les jeunes diplômés qui accumulent expérience et formation sans jamais parvenir à décrocher un vrai travail ». En la matière, l'Italie est lanterne rouge européenne. Ces jeunes, on les appelle les NEET. C'est un acronyme de l'anglais, Not in Education, Employment or Training, ni en formation, ni employé, ni en stage. En Sicile, c'est un jeune sur cinq et une étude de Save the Children considère que cela pourrait concerner plus d'un jeune sur trois d'ici la fin de l'année. Un reportage de Cécile Debarge.
Un peu de peinture rose et violette, un marteau et des clous, et voilà des cagettes de fruits qui se transforment en étagères murales. Entourés par des bénévoles des associations NACA et Acario, une dizaine d'adolescents s'affairent pour embellir les murs sales et tristes qui les entourent.
Ici, on est dans une petite ruelle du quartier du Capo de Palerme, qui est malheureusement l'un des plus pauvres de la ville. Alors les enfants ont nettoyé toute cette ruelle qui était jonchée d'ordures, et on a voulu valoriser leurs efforts, les faire se retrouver ensemble et faire quelque chose pour les habitants.
Mariano Lograsso a 26 ans. Il surveille d'un œil attentif les ados du quartier en plein bricolage, un avant-goût du stage de 6 mois qu'il commencera fin mars avec l'association Acario. Mariano vient d'une petite ville non loin de Palerme. Il a terminé ses études à la fin de l'année dernière. Officiellement, c'est un NEET car il ne travaille pas et n'étudie pas.
Quand un étudiant termine l'université, il n'a aucune idée de ce qu'il veut faire, à moins d'avoir déjà un parcours balisé. Beaucoup de mes amis étaient dans la même situation que moi. Donc, moi, j'ai pris le temps de choisir le parcours qui me semblait le plus juste pour moi. J'avais trouvé autre chose, un boulot qui payait mieux, mais j'ai préféré mettre la question de l'argent de côté et choisir une opportunité qui me permette d'agir pour la communauté dans laquelle je vis.
L'acronyme NEET est un peu trompeur et cache des situations très différentes. Certains jeunes Italiens ont arrêté l'école assez vite et ne travaillent pas, c'est une réalité. D'autres travaillent au noir ou, comme Mariano, ne veulent pas se contenter d'un travail loin de leur parcours universitaire ou précaire et sous-payé, comme l'explique Melania Ferrara à la tête du projet SID de l'association Acario dédiée aux NEET.
Il y en a beaucoup qui disent « mais du travail, il y en a toujours, il faut le chercher, c'est tout. » C'est vrai, du travail, on en trouve, mais les conditions sont souvent proches de l'exploitation. Pour les jeunes diplômés de l'université, les opportunités se réduisent souvent à des stages à 300 euros mensuels. Et les jeunes le font. Ils le font, même dans ces conditions, avec l'espoir d'être embauchés. Or, les entreprises ne les embauchent jamais.
La situation est particulièrement critique en Sicile, où plus de 38% des jeunes sont des NEET, soit plus d'un sur trois. Melania Ferrara.
C'est la région avec le taux le plus important d'Italie. Le projet prévoit donc de les aider à développer de nouvelles compétences qui pourront leur servir sur le marché du travail et favoriser leur accès à l'emploi. C'est spécialement pensé pour les jeunes de 18 à 30 ans.
Six binômes composés d'un Italien et un Européen participeront au projet SID pour une durée de 6 mois. Ils seront rétribués 500 euros par mois, soit près du double du minimum légal. Le projet est financé par le programme européen European Solidarity Corps et l'Agence nationale pour les jeunes et vise à leur faire acquérir des compétences précieuses sur le marché du travail. Se familiariser avec les projets européens, développer des compétences en langue et des projets dans le secteur social. Giorgia Spina a été la première à en bénéficier. Elle tire un bilan plutôt très positif de cette expérience.
En quelques jours, je participais déjà aux réunions avec les partenaires. Je m'occupais toute seule de certaines activités. Ça a été vraiment important pour moi, car j'ai senti qu'ils me faisaient confiance et m'ont donné la chance de montrer ce que je valais.
Licence de traduction anglais-français en poche, elle poursuit un master à Milan en relations internationales et enchaîne 3 mois de stage à Genève comme chargée de projet au sein du Bureau international catholique de l'enfance. Elle rentre en Sicile au début de la crise sanitaire et malgré son CV bien rempli, elle ne sait pas qui lui aurait ouvert la porte si elle n'avait pas participé au projet SID.
L'alternative, ça aurait été de trouver n'importe quelle autre possibilité opportunités de formation ou d'études. J'aurais dû envoyer plein de nouvelles candidatures, chose que j'avais faite avant de commencer ce stage. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu aucune réponse. Donc ça aurait été très difficile et sûrement très démotivant.
Ce qu'elle déplore, c'est la difficulté des employeurs à faire confiance aux jeunes.
Je me rends compte que la situation des jeunes ou des personnes au chômage en ce moment est vraiment critique, car le monde du travail était déjà bouché et la pandémie n'a fait qu'empirer la situation.
Surtout, explique Mariano Lograsso, les conséquences de la crise sanitaire ont profondément changé les modalités d'accès au monde du travail pour les jeunes. Au-delà des entretiens et des premières expériences qui se déroulent désormais par visioconférence, la mobilité des jeunes du Mezzogiorno a été sérieusement entravée.
Quand on vit ici, dans le sud, on a beaucoup moins d'offres de travail. Souvent, on doit déménager vers le nord, mais dernièrement, ça a freiné pas mal de monde. Le fait de devoir quitter sa vie, payer un loyer, des charges importantes, c'est une dépense que tout le monde ne peut pas se permettre.
Une chambre en colocation à Milan, la capitale lombarde, peut coûter entre 500 et 600 euros, explique-t-il. Un coût difficile à assumer quand on craint de voir son entreprise fermer ses portes à cause de la crise sanitaire. En décembre 2020, le chômage des jeunes en Italie a atteint 30%.
The coronavirus has changed life as we know it, but how did we go from zero cases to having more than any other country?
Aux Pays-Bas, le Premier ministre sortant, le conservateur Mark Rutte, est donné favori des élections législatives qui ont débuté hier. Le scrutin a été étalé sur 3 jours en raison de la pandémie. La crise sanitaire a aussi profondément modifié la campagne électorale en raison des mesures anti-Covid. Les candidats se sont la plupart du temps contentés d'apparitions en ligne et c'est aussi cette même crise sanitaire qui domine le débat électoral. Et pourtant, d'autres sujets préoccupent énormément une partie des Néerlandais, notamment la grave crise du logement à laquelle le pays est confronté. C'est un reportage d'Antoine Moutot.
Quand on le voit assis tranquillement dans son salon, il est difficile de s'imaginer ce que Nechip a pu traverser. Mais le visage marqué et triste de cet homme de 37 ans trahit une partie de son histoire. Pendant plusieurs années, il s'est retrouvé sans logement fixe, errant d'un centre d'hébergement d'urgence à l'autre.
Ça, c'est ma chambre. Là, c'est mon lit, puis une commode. Et là, vous voyez, il y a une lampe. On peut la régler. C'est ma lampe.
L'appartement que Nechip nous montre fièrement, il le partage depuis quelques semaines avec 3 autres personnes. C'est l'armée du salut qui a aménagé cet endroit avec le soutien d'IKEA. Si tout va bien, à l'avenir, Nechip pourra habiter seul dans un autre appartement fourni par le mouvement protestant qui vient en aide aux plus démunis et la marque de meubles suédoise.
Je serai très content d'avoir mon propre logement. Je pourrai vivre ma vie, vivre de façon autonome. J'ai 37 ans, donc bon.
Nechip explique avoir été à la rue en grande partie en raison d'une forte addiction aux drogues. Mais aux Pays-Bas, les places en hébergement d'urgence sont de plus en plus remplies et l'accès au logement de plus en plus difficile pour les plus vulnérables. Selon l'armée du salut, la situation est grave.
Il faut avoir beaucoup d'argent, disposer de hauts revenus pour pouvoir louer un logement aux Pays-Bas. Donc, ce que nous recherchons pour les sans-domicile fixe, ce sont des logements abordables, bon marché, où vous pouvez habiter avec de bas revenus. C'est un véritable défi aux Pays-Bas.
En 10 ans à peine, le nombre de sans-domicile fixe dans le pays a plus que doublé, passant d'environ 18 000 à 40 000 personnes. Pour des membres de l'opposition au Premier ministre de droite libérale Mark Rutte, cette période coïncide exactement avec ses 10 dernières années au pouvoir. Selon eux, il faut rapidement construire des logements supplémentaires avant que la situation ne devienne catastrophique. Et dans le secteur de la construction aussi, certains tirent la sonnette d'alarme, à l'image de Désiré Huitzetter, présidente de la Fédération des promoteurs néerlandais.
L'urgence en ce moment, c'est que nous faisons face à une pénurie de logements. Il y a aux Pays-Bas 330 000 familles de plus que ce que le pays ne compte de logements. Donc, il nous manque 330 000 logements.
Selon une récente étude de l'Institut national des statistiques, en novembre dernier, le prix des logements aux Pays-Bas avait augmenté de 9% par rapport à l'année précédente. Le montant moyen à l'achat est de 344 000 euros, c'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Pour beaucoup ici, la solution pour maîtriser ces prix fous serait de construire davantage et plus rapidement. Mais le pays est assez petit et lancer de nouveaux grands projets de construction reviendrait à grignoter davantage encore zones agricoles et naturelles.
Et si Mark Rutte pourrait être reconduit à l'issue de ces élections aux Pays-Bas, il risque une nouvelle fois de devoir bâtir un gouvernement de coalition et peut-être avec celle qui était jusqu'ici sa ministre du Commerce extérieur. Sigrid Kaag est diplomate de carrière. Elle a passé plus de 20 ans à l'ONU jusqu'au poste de conseillère spéciale de Ban Ki-moon. Et elle vient de prendre la tête il y a seulement 6 mois du parti D66 à gauche sur l'échiquier politique néerlandais. Un portrait signé Vincent Souriau.
Elle a négocié le désarmement chimique du régime syrien. Elle a coordonné le bureau de l'ONU au Liban. Elle a vécu à Jérusalem, en Jordanie, à New York, au Soudan, en Suisse. En résumé, elle a la bougeotte, des nerfs solides et le goût du risque. Ça, personne ne dit le contraire. Mais pourquoi donc Sigrid Kaag a-t-elle quitté la haute diplomatie pour se lancer en politique? Rien de plus naturel, répond le député néerlandais Achraf Boily, qui milite au sein de son parti dès 66 et qui l'a côtoyé au Parlement néerlandais pendant plusieurs années.
La diplomatie, la politique, oui, c'est la politique à l'étranger, mais c'est de la politique aussi. Elle a travaillé au sein des Nations Unies, dans différents pays. Je crois qu'elle voulait aussi utiliser ses atouts aux Pays-Bas pour changer aussi la politique ici. Et nous sommes un des rares pays en Europe qui n'a pas eu une femme comme Premier ministre. Je crois que Sigrid, c'est vraiment le personnage, la personnalité qui peut prendre ça aux Pays-Bas.
C'est l'un de ses arguments de campagne. Donner un coup de neuf dans un paysage très masculin, car au sein des quatre principaux partis en lice aux législatives, sa formation est la seule à être dirigée par une femme. Sa carte de visite, centre-gauche, social-libérale, pro-européenne. Mais ce scrutin n'est pas tout à fait comme les autres. La pandémie de coronavirus est passée par là. Et ce que les Néerlandais attendent à court terme, c'est un gouvernement qui fasse reculer la maladie. En la matière, l'expérience de Sigrid Kaag à l'ONU joue-t-elle en sa faveur ? Prudence.
De l'humanitaire au sanitaire, c'est pas exactement la même chose, si vous voulez, parce que l'humanitaire, c'était quand même la projection des Pays-Bas vers l'altérité mondiale. Hein.
Christophe De Vogt, professeur à Sciences Po et auteur d'une histoire des Pays-Bas des origines à nos jours.
La crise sanitaire, elle a plutôt l'effet inverse de renvoyer les Pays-Bas vers eux-mêmes et de nous d'abord, carte que joue très bien et Rutte et évidemment les populistes. En plus, elle part d'un parti très haut, 19 sièges, ce qui le mettait troisième ex aequo, ce qui est beaucoup historiquement pour ce parti-là, qui était un parti, on ne va pas dire marginal, mais qui était un peu le modem, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si elle fait aussi bien, ce sera déjà un triomphe.
Son programme, investir dans l'éducation, gonfler les salaires des enseignants, mieux intégrer les immigrés, tacler les discriminations. Ses chances d'arriver en tête des législatives sont très minces. Mais à minima, elle a l'ambition de faire pencher la future coalition à gauche et de monnayer chèrement ses sièges au Parlement.
Si vous avez 5 sièges, vous pesez lourd. Parce que vous pouvez faire une majorité ou la défaire. C'est là-dessus qu'elle joue. Hein. Dans le paysage, ce qu'elle veut, c'est la troisième place. Elle veut passer devant les chrétiens démocrates. Et ce n'est pas impossible, parce qu'ils pataugent actuellement les chrétiens démocrates. Donc, elle joue cette carte-là. Elle serait deuxième dans la coalition avec Rutte. Et là, quand on est deuxième, on est, par définition, on pèse plus lourd que quand on est troisième. Donc, ça va être un parti charnière, puisqu'il est de centre-gauche, donc il peut aller avec la droite ou avec la gauche. Mais la gauche ne sera pas en état de faire une majorité.
Rien ne presse. Sigrid Kaag a certes 59 ans, mais elle doit encore s'installer dans ses habits de politicienne chevronnée. Elle vient de boucler 3 années en tant que ministre du Commerce extérieur néerlandais. Un bon score aux législatives pourrait la propulser à d'autres fonctions au sein du futur exécutif. Et elle ne serait sûrement pas dépaysée aux affaires étrangères.
Au cœur des Balkans, le Kosovo, ancienne province serbe qui a déclaré son indépendance en 2008, le plus jeune État d'Europe qui peine à affronter les pages sombres de son histoire. Les anciens dirigeants de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, sont actuellement incarcérés à La Haye, accusés de crimes de guerre. Mais dans le bastion de l'UÇK, la justice internationale passe mal auprès des Albanais du Kosovo. C'est un reportage de Louis Seyé.
Sur la place piétonne de Skenderaj, petite ville du centre du Kosovo, Dritan Sula sort d'un café bondé. Cet étudiant en sciences politiques montre fièrement le slogan inscrit sur son pull.
La liberté a un nom, c'est un logo, un message de soutien à tous les membres du parti, de l'ancienne armée de libération nationale du Kosovo. Il s'adresse aussi à tous ceux qui témoignent contre les soldats de l'UÇK, pour dire clairement que l'UÇK a été une armée de libérateurs. Ça n'a jamais été une organisation terroriste.
Sur le pull de Dritan, comme sur les immenses banderoles affichées dans la ville, deux visages, ceux de Hashim Fachi et de Kadrim Veseli. L'été dernier, les anciens dirigeants de la guérilla indépendantiste albanaise ont été accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par le tribunal spécial pour le Kosovo. Ces accusations sont rejetées en bloc par l'étudiant Dritan Sula.
Très franchement, je ne crois pas du tout à ces accusations. C'est un jeu politique que l'Union européenne joue depuis longtemps avec nous, les Albanais. C'est seulement pour montrer qu'elle nous traite de la même manière que l'envahisseur serbe. Il n'y a rien de vrai dans ces accusations. C'est juste une question de politique.
Héros de la guerre contre la Serbie, Hashim Fachi est une figure majeure du jeune et encore contesté État kosovar. Après avoir déclaré l'indépendance du pays en 2008, l'ancien chef de guerre a occupé tour à tour les postes de Premier ministre et de Président, poste dont il a dû démissionner à la suite de son inculpation. Avec d'autres anciens dirigeants de l'Ucheka, Fachi est en effet accusé d'une centaine de crimes commis en 1998 et 1999. Des assassinats et des actes de torture perpétrés contre des Serbes, des Roms, mais aussi des opposants politiques albanais. À Skenderaj, comme dans toute la région de la Drenica, ces accusations suscitent l'indignation. La vallée est un bastion du PDK, le parti politique d'Hashim Fachi. Jeune membre du PDK, Besart Sadiku n'hésite pas à contre-attaquer.
Toutes ces accusations sont fabriquées depuis la Serbie et la Russie, et aussi malheureusement par certaines personnes qui vivent ici au Kosovo, mais qui travaillent pour d'autres pays. Hashim Thaçi est un libérateur. C'est un libérateur pour tous les citoyens du Kosovo et pour tous les Albanais. Kadri Veseli aussi. Ce sont tous des libérateurs. Ils se sont battus pour leur peuple. C'est pour ça qu'on demande leur libération immédiate et l'abandon de ces accusations mensongères.
Rue de Lucheka, boulevard des martyrs de la nation. Au Kosovo, le nom des places et des rues évoque partout le conflit qui a fait près de 13 000 morts, dont 10 000 Albanais du Kosovo. Même chez les adversaires politiques du PDK, on fait bloc derrière la guerre de libération de la guérilla albanaise. Ainsi, Albunor Krasnici, militant du parti de gauche, vête un dossier.
Si on leur faisait un procès pour des affaires de corruption quand ils étaient au pouvoir, moi aussi je soutiendrais le tribunal. Mais pourquoi les accuser de crimes qu'ils n'ont pas commis? Ce sont des accusations qui nous touchent aussi, nous, les citoyens du Kosovo, parce qu'on sait bien qui a commis ces crimes. Pendant la guerre, des organisations internationales ont tout observé et elles savent qui a commis ces crimes.
13 ans après, Belgrade ne reconnaît toujours pas l'indépendance de son ancienne province du Sud. Dans ce contexte, beaucoup d'Albanais du Kosovo ne comprennent pas pourquoi certains commandants serbes, soupçonnés d'être responsables de crimes lors du conflit, sont aujourd'hui en liberté. Ce sentiment d'injustice est répandu dans la société kosovare, mais le politologue Agon Malici en relativise la portée.
Le fait que la justice internationale ait dressé plus d'actes d'accusation contre les soldats de Lucheka que d'actes d'accusation contre les responsables serbes, cela a créé beaucoup de mécontentement et de frustration au Kosovo. Mais dans l'ensemble, les gens ont accepté le tribunal comme une réalité et un devoir du pays sur le plan international, ce qui est une chose positive. Il faut aussi comprendre que ce soutien de la population vient du contexte de la guerre de 1999. La lutte de Lucheka a une grande valeur dans le pays. Elle est perçue comme une guerre juste.
Le président Fachi et les autres accusés ont annoncé plaider non coupable. Le procès ne se tiendra pas avant plusieurs mois, mais pour les chambres de la Haye, le principal défi reste la protection des témoins. En septembre dernier, une importante fuite de documents a jeté le doute sur la capacité du tribunal à les protéger.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.